Jésus est-il le seul vrai Dieu ? Amen, oui, c'est facile. J'étais sûr que vous alliez répondre ça. On est à l'église, c'est facile de répondre oui. Je me dis à une assemblée qui s'asseye dans l'église, est-ce que Jésus est le seul vrai Dieu ? Oui. Est-ce que vous êtes convaincu ? Tant mieux. Moi, je ne le sais pas, c'est votre cœur et le Seigneur qui le sait. Je pense qu'il est quand même toujours plus simple de dire oui quand on est assis à l'église que chaque jour, au quotidien, dans chaque situation. Est-ce que Dieu est toujours à la première place ? Est-ce que Jésus a toujours la première place dans chaque situation de votre vie ? Est-ce qu'il reste Dieu ? Vendredi, comme vous avez entendu, j'ai partagé un enseignement sur différentes religions, mais sur la place de Dieu et de Jésus dans notre vie. Et j'ai posé cette question aussi aux jeunes que j'aimerais vous poser. Qu'est-ce qu'un Dieu ? Alors, je ne vous demande pas des réponses, parce qu'il y en aurait trop, mais laissez-moi vous dire celle que le Larousse m'a donnée. Très intéressant. Dans les religions polythéistes, être supérieur doué d'un pouvoir surnaturel sur les hommes, une divinité, exemple, les dieux des Romains. Une autre définition, la représentation d'une divinité, des dieux en pierre. Et il y en a beaucoup. Ou ça peut être aussi une personne à laquelle on voue une sorte de vénération que l'on considère comme supérieure. Exemple, sportif, artiste, Roger Federer, Johnny Hallyday, Michael Jackson, le nombre de gens qui ont voué des cultes à ces personnes et qui le font encore, alors qu'elles sont mortes. Pas Roger, bien sûr. Un objet, une chose, une idée que l'on place au plus haut dans la hiérarchie des valeurs et à quoi on sacrifie tout. L'argent, hein, on a entendu Michael. Le sport, le corps, les vêtements, etc., etc. Et aussi, être éternel, unique, créateur et juge. Croire en Dieu. Voilà quelques définitions. Comme vous avez entendu, il y a plusieurs réponses possibles, dont certaines, peut-être vous êtes plus familières avec celles-ci, et on est plus familier. Quand on pense à l'argent, je pense que ça doit titiller certaines personnes d'entre nous ici. Ce matin, j'ai envie de laisser Jésus, lui, nous interpeller sur sa nature et laisser sa vérité nous saisir et nous révéler le Dieu qu'il est pour nous aujourd'hui. Il est possible que vous soyez assis dans la salle et que Jésus ne représente pas le seul vrai Dieu de votre vie aujourd'hui. Il en est un, vous y croyez, mais il est en concurrence avec beaucoup d'autres. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, laissez-lui la chance de se manifester à vous à travers la parole et de devenir le seul vrai Dieu de votre vie. Je l'ai dit avant, laissez-lui, n'endurcissez pas votre cœur, laissez le Saint-Esprit travaillez votre cœur aujourd'hui. J'aimerais vous emmener dans un beau psaume, le psaume 96. Très beau psaume. Psaume 96. Quand vous y êtes, vous pouvez dire Amen et rester avec moi. Quand vous n'y êtes pas, vous pouvez m'écouter. Le titre de ce psaume, écoutez bien, hymne à la grandeur et à la gloire de Dieu. Chantez en l'honneur de l'Éternel, un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui, la force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient, oui, il vient pour juger la terre, et jugera le monde avec justice, et les peuples suivant sa fidélité. Amen. Waouh. J'aime beaucoup ce psaume, et ça fait du bien de le relire pour la, je pense, 10e fois ces derniers quelques jours. Savez-vous dans quel contexte ce chant a été écrit ? Peut-être vous ne savez pas. Est-ce que vous savez qui l'a écrit alors ? Quelques-uns peuvent... Il y a peu de choix. Hein. David, bien sûr, c'est David. C'est David qui a écrit ce chant. À quel moment ? On retrouve ce passage, en fait, ce bout de chant, parce que c'est juste un bout, dans le livre des Chroniques des Rois. Est-ce que vous connaissez le livre des Chroniques des Rois ? On ne le lit pas souvent parce qu'il parle de beaucoup de noms et ça, mais c'est très intéressant. On parle de l'histoire des rois. Et on peut trouver ce passage complet dans 1 Chronique 16, versets 7 à 36. Je ne vais pas tout relire, mais je vais utiliser par contre ce passage. 1 Chronique 16. Que se passe-t-il dans ce passage ? Qu'est-ce qui se passe juste avant ? En fait, David, le roi David, réalise que l'arche de l'Alliance, l'arche de Dieu n'est pas dans la ville de Jérusalem. Elle est loin. Elle n'est plus au centre de la préoccupation du peuple de Dieu. Et David dit, non, ça ne va pas. Les gens sont en train de s'égarer. Il faut que je fasse revenir l'arche au milieu. Et là, il prépare le tabernacle, il prépare la tente pour accueillir l'arche de l'Alliance et la faire venir au milieu du peuple. Et c'est juste à ce moment qu'il va composer ce chant. L'arche est revenue et il chante ce chant d'adoration. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait juste avant ? Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a fait juste avant ? Il a dansé devant l'Éternel, librement. C'est ce passage. Pourquoi tant de joie et une telle conviction dans ses propos ? Qu'est-ce qui pousse le roi David à s'exprimer ainsi concernant son Dieu ? Premièrement, il se souvient des actes prodigieux de l'Éternel. Dans le texte justement de base, dans Chronique 1, 16, au verset 12, on peut lire « Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. » Alors qu'il commence ce chant, David directement se rappelle les merveilles que Dieu a accomplies dans sa vie. Il se rappelle. Ça fait du bien de se rappeler des fois, non ? David commence par se souvenir des merveilles et non des difficultés qu'il a vécues avec le Seigneur. Les merveilles et non les difficultés. Et on pourrait en parler des difficultés que David a vécues, n'est-ce pas ? Vous connaissez un peu la vie de David. Mais lui se souvient des merveilles, des prodiges et de ses justes jugements. Bien souvent, je crois que nous avons tendance à oublier ce que Dieu fait dans notre vie. Il peut nous avoir manifesté sa puissance et sa bonté il y a quelques jours, et aussitôt après, nous oublions. Peut-être vendredi, un jeune a été encouragé, ou vous avez été encouragé, vous avez reçu une parole d'encouragement, pile dans le mille pour votre vie. Vous avez été encouragé parce que vous avez trouvé un travail, et ça fait des mois que vous priez. Et deux jours après, « Ah, mais Seigneur, mon collègue, il m'énerve et tout !» Mais pendant des mois, tu as prié pour un travail et tu as oublié. Tu as déjà oublié. On a déjà oublié. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que nous avons une mémoire de poisson rouge lorsqu'il s'agit de se rappeler des actions merveilleuses de Jésus dans notre vie, de ses miracles et de la manière dont il nous fait justice. Laissez-moi vous donner peut-être une aide qui peut nous aider chaque jour. Avons-nous pris l'habitude de noter sur un petit carnet ce que Dieu accomplit dans notre vie tous les jours ? Qui c'est qui a un carnet ici ? Juste, qui c'est qui fait un journal de bord avec Jésus ? Pas beaucoup de mains levées. Moi, j'aimerais vous encourager, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire un carnet virtuel sur votre téléphone, mais écrivez ce que Dieu fait. Écrivez lorsqu'il se révèle à vous dans la parole. Écrivez lorsque quelqu'un a prié pour vous et qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie. Parce que sinon, vous allez oublier le jour où la tempête arrive. Vous allez crier « Jésus, Jésus !» J'étais là, je suis encore là et je serai encore là avec toi. Écrivez, rappelez-vous. David se souvient de la manière dont son Dieu a agi dans sa vie depuis son très jeune âge, lorsqu'il était berger et que l'ours arrivait et paf, il lui met une grosse droite. Moi, je n'ai pas mis des droites à des ours, lui, il l'a fait parce que l'Éternel était avec lui. Lorsqu'il a défié Goliath, qui c'est qui a déjà défié un géant ici ? Non, là, je ne veux pas voir de main levée. Ou lorsqu'il a bien entendu vaincu de nombreuses armées ennemies qui venaient contre lui et son peuple. Et Dieu était toujours là. Il se souvient de ça. Il se souvient de ses merveilles. En se remémorant ses prodiges, il affirme que Dieu est bien vivant, qu'il est un Dieu fidèle et qu'il continue d'agir encore aujourd'hui. Et cela lui procure beaucoup de joie. Amen. On a plus de joie à se remémorer ce que Dieu a fait de bon dans notre vie, n'est-ce pas ? Alors, pratiquez-le. En d'autres termes aussi, je m'imagine, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire ici ? David commence ce chant en disant « J'ai vu mes ennemis appeler leur Dieu ». Mais ils ont tous été anéantis par mon Dieu. Je vois bien Goliath, ouais, lui avec sa grosse épée et tout comme ça, immense. Puis on a David, le petit. Toi, tu viens avec ton épée. Moi, je viens au nom de Dieu, l'Éternel des armées. Tu ne peux rien faire contre moi. Tu aurais même 5 épées. Je te mets par terre avec un caillou. Amen. C'est le Dieu qu'on sert. Et rappelez-vous, les amis, c'est le Dieu qu'on sert. Il est clair pour David, il n'y a pas de doute, l'Éternel est son Dieu, parce qu'il le connaît personnellement et le voit agir dans sa vie. Est-ce que tu connais Dieu personnellement? Est-ce que Jésus est ton ami, comme on l'a vu? Est-ce qu'il agit dans ta vie? Est-ce que tu le laisses agir dans ta vie? Vous allez peut-être me dire, mais Nicolas, c'est bien beau ce que David chante ici. Lui, il a vécu des miracles. Et comme je l'ai dit, bien sûr, moi, je n'ai pas vaincu l'ours à main nue, je n'ai pas vaincu un géant. Mais je peux vous dire une chose. Il y a maintenant plus de 9 ans, j'ai décidé de dire au Seigneur, sois le premier, sois le seul vrai Dieu dans ma vie. Et à partir de là, je peux regarder en arrière et je pourrais vous faire une liste d'interventions divines. La première, je suis ici devant vous. Et ça, je peux vous dire, c'est un miracle. Et chaque jour que vous me verrez ici, chaque dimanche, vous pourrez dire, waouh, le miracle. Parce que vous ne me connaissiez pas avant. Posez la question à mes parents, à mes grands-parents, quand j'avais des longs cheveux, que je fumais des pétards toute la journée. Posez-leur la question, le miracle de Dieu. Si jamais, moi, je n'oublie pas. S'il m'a placé ici, c'est qu'il agit. Parce que j'ai fait appel à Jésus. Je lui ai laissé la place d'agir dans ma vie. Et si cela n'est pas encore le cas aujourd'hui pour vous, s'il vous plaît, dites aujourd'hui, Seigneur, je veux te laisser agir. Je veux te laisser agir. Car moi, je ne peux rien faire, mais toi, tu peux tout faire. Mais pour cela, vous devez reconnaître que Dieu sauve. Parce que si vous ne reconnaissez pas que Dieu sauve, vous ne pourrez pas vivre sa plénitude, vous ne pourrez pas vivre sa liberté. Vous ne pourrez pas expérimenter la joie qu'il procure. Il faut croire que Dieu sauve. Et pouvez-vous l'affirmer et le chanter tout comme David le fait dans le verset 23 ? Habitants de toute la terre, annoncez de jour en jour son salut. De jour en jour ! Et ça fait des milliers d'années que David chante. De jour en jour ! Oui, Dieu est venu pour nous sauver en Jésus. David prophétise par ce verset le salut que Dieu va nous offrir en Jésus et qui est actuel aujourd'hui, jour après jour, après jour, après jour. Et lui, il est là, il est en train de réaliser, mais en fait, Dieu va envoyer son fils, et il ne le sait même pas, il prophétise. Et pendant tous les jours de votre vie, vous pourrez faire appel au Dieu qui sauve. Waouh ! Éternellement, jour après jour, Dieu règne. Et c'est ce que David est en train de dire. Dieu est venu pour me sauver en Jésus. Et c'est ici le plus beau miracle qu'il soit. Et je peux le dire à tout le monde et l'annoncer, Jésus sauve encore aujourd'hui. Amen. Encore aujourd'hui. Et je suis sûr que certains qui ont levé la main, à partir d'aujourd'hui, vous allez vivre quelque chose de différent. Je le crois. À cet instant, David vient simplement proclamer la souveraineté totale de Dieu et sa puissance de rédemption. C'est un passage prophétique, comme je l'ai dit, qui annonce la joie à venir en Jésus. Et nous annonce que Dieu a déjà préparé la victoire totale et qu'aucun Dieu, ni puissance, ni ennemi ne pourra s'y opposer. On pourrait reprendre Romains 8, les derniers versets. « Ni la mort, ni les souffrances, ni les oppositions ne pourront me séparer de l'amour de Dieu. » En Jésus-Christ ! Rien ! Il est déjà en train de dire « Il n'y aura rien qui pourra défier mon Dieu en Jésus. » Il a déjà tout prévu. C'est fou ! Des fois, je me dis « Mais pourquoi je travaille ?» Je devrais juste arrêter et rester en Jésus. C'est lui qui fait tout. Et c'est ce qu'il est en train d'essayer de m'enseigner aussi, même avec ses messages. Des fois, je me dis, faut que je me prenne la tête, Seigneur, faut que je médite. Puis après, il me dit, mais Nico, reste en moi, repose-toi en moi. Et c'est ce que je disais ce matin au briefing avec les jeunes. J'étais là, mais c'est tellement une grande responsabilité d'apporter la parole. En tout cas, pour moi, elle l'est, je pense, pour les pasteurs qui sont dans cette église. Mais des fois, on se prend tellement la tête qu'on passe à côté de cette relation d'amour et de paix que Dieu veut nous donner. Et dit, mais t'inquiète pas, je prends soin de toi. C'est moi qui vais donner ton message. Et des fois, j'ai tendance à vouloir faire tellement bien. Et dit, mais repose-toi en moi. Repose-toi en moi. Reçois ma joie. Il n'y a que moi qui règne. Et dans ce passage, justement, c'est là où David va proclamer ce verset que vous avez dans Psaume 96, 4 et 5, et on le trouve dans 1 Chronique 16, versets 25 et 26. « Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. » David n'a pas peur de faire l'éloge de son Dieu, en le comparant aux autres dieux. Et c'est ce que j'exposais aussi vendredi, mais des fois je me dis, je suis orgueilleux de dire, ouais, mais Jésus, il n'y a que Jésus qui sauve. Dites ça à un musulman, dites ça à un hindou. Mais si vous avez deux personnes qui sont butées et qui croient, ben forcément les deux vont croire. Mais c'est une révélation qu'il faut vivre. Plus qu'une croyance, c'est une révélation personnelle qu'il faut vivre. Et c'est justement ce qu'a vécu David, c'est ce qu'il vit. Il est convaincu parce qu'il a vécu quelque chose de personnel. Dieu lui révèle qui il est. C'est une révélation prophétique à venir. Tu vas être libre en Jésus et ce règne est éternel. C'est ce qu'il lui dit, c'est pour ça que sa joie était extraordinaire. Il reconnaît que tout est possible à Dieu. David a foi en son Dieu et sait qu'aucune force ne peut s'opposer, pas même Satan. Rien, ni personne, ni aucun Dieu ne pourra arrêter l'œuvre de Dieu en Jésus. Il est l'alpha et l'oméga, il a créé le ciel et la terre, il dirige toutes choses. Vous savez quoi, toutes choses. Même lorsque vous tombez, même quand vous vous cassez un bras, même quand vous avez un accident, peu importe, Dieu est au contrôle. Il n'y a rien qui arrive dans votre vie qui n'est pas permise par Dieu, mais Dieu est au contrôle et il règne. Il sait déjà où il vous amène. Il faut juste lui faire confiance. Ça, c'est plus dur, je suis d'accord. Mais David ici vient dire, moi j'ai foi en Dieu. Et c'est un hymne à la foi. Je crois que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a aucun autre comme lui. Tous les autres, c'est du pipeau. Moi, je crois que mon Dieu est le seul vrai Dieu. Et c'est de la même manière, en croyant que Jésus est souverain, en croyant qu'il est Dieu et qu'il règne sur la terre et le ciel, alors vous pourrez expérimenter sa vérité et sa puissance de rédemption dans votre vie. Et on l'a dit, il faut croire, il faut accepter, il faut recevoir sa grâce. Et vous savez quoi ? Des fois, je me dis, mais la grâce, ça nous offense parce qu'on n'a rien à faire. Et ô combien nous, les humains, on veut montrer qu'on y arrive. Vous êtes d'accord avec moi ? Combien de fois on veut prouver qu'on y arrive ? Seigneur, je vais y arriver à te faire plaisir. Non, tu ne vas pas y arriver. Arrête. Reçois ma grâce et arrête de te prendre la tête. Et laisse-moi diriger ta vie. C'est ça qu'il nous dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Imaginez ce passage. En fait, l'arche était éloignée. Les gens s'éloignaient de Dieu. Et David voit ça et il est saisi par l'Esprit et dit, c'est pas possible, il faut que je ramène Dieu au centre. Il faut que je me rapproche de lui. Et ce moment-là va bouleverser sa vie. Il va avoir cette projection du salut et c'est pour ça qu'il va être prêt à danser librement. Il va être impacté profondément par cette vérité révélée sur cet instant alors que l'arche revient au centre de sa vie, au centre du peuple, au centre de ton cœur. Qui est au centre de ton cœur ce matin ? Qui est au centre de ton cœur ? Quand tu te couches, quand tu te lèves, quand tu vas au travail, quand tu achètes une glace, quand tu vas au McDo, quand tu insultes ton voisin qui met la musique tard, qui est au centre de ton cœur ? Imaginez le roi David, roi puissant, reconnu, qui entre dans la ville sainte. Et là, il est en train de danser, mais je ne pourrais pas vous imiter comme il dansait, parce que je n'étais pas là. Mais ce que je sais, c'est qu'il dansait d'une manière tellement, je pense, libre et peut-être excentrique, que Michal, sa femme, l'a regardé et elle s'est moquée de lui. Elle a dit, regarde, mais qu'est-ce qu'il fait devant tout le monde ? Mais il n'a pas honte de faire ça ? Non, il n'a pas honte, il est libre. Il est libre, il est libre, il est libre, parce qu'il vient de recevoir la liberté en Jésus. Dieu lui annonce déjà ça. En fait, je n'imagine pas, mais ça devait être hallucinant ce qu'il a vécu à ce moment-là. Il y a une chose qui est certaine, lorsqu'on découvre la vérité concernant Jésus, nous découvrons aussi la liberté qui l'accompagne. Je pense que plusieurs ici peuvent le témoigner. Lorsque tu laisses Jésus venir régner dans ta vie, tu deviens libre. Libre de dire non aux tentations. Libre de dire non à Satan. Amen. Waouh. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Jésus est la vérité. C'est Jésus. Nous devenons libres. Ô combien libres. Libres de tout jugement. Merci Estelle. Tu as dit, avant, le regard des gens te pesait. Tu l'as dit, j'ai écouté, hein, j'ai fait attention d'écouter. Aujourd'hui, le Seigneur te donne une identité. Il affermit son identité de fille, que tu es sa fille. Et que le regard des gens, peu importe, tu pourrais danser, chanter. Aujourd'hui, tu fais des choses que tu n'aurais pas osé faire avant, n'est-ce pas? Parce que Dieu est en train de prendre toute la place dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, c'est ça que je vis. Et en fait, c'est là l'encouragement le plus grand d'un pasteur, c'est de voir des vies transformées. Et là, je peux juste dire merci au Seigneur de me permettre de voir sa gloire se manifester. Merci Seigneur. Notre cœur trouve la paix tant recherchée. Plus rien n'a d'importance que Jésus. Et c'est exactement ce que dit David au verset 31 et 33. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qu'il s'y trouve soient en fête. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Et là, il s'exprime et il veut annoncer à tout le monde, « Jésus sauve ! Jésus t'aime ! Il a donné sa vie pour toi ! Il a prévu quelque chose pour toi, des bonnes œuvres prévues d'avance ! Il a une joie pour toi ! Je veux le dire à tout le monde. Arbre des champs, tapez des mains, célébrez la joie de l'Éternel ! Waouh ! Ça, c'est du chant. David, conduit par l'Esprit à nouveau, annonce déjà le règne de Jésus et le jugement à venir. Il ne sait pas tout ce qu'il est en train d'annoncer, mais c'est tellement grand. Il n'a plus de crainte, car il sait que son Dieu est juste. Il sait qu'il est souverain, qu'il règne et qu'il arrive pour manifester sa justice. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, vous savez quoi? Si vous vivez quelque chose d'injuste, patientez. Le Dieu de justice vous rendra justice au moment donné. Ne vous vengez pas par vous-même. Et même si vous ne voyez pas la justice arriver sur cette terre, ici, pendant votre vie, ne vous inquiétez pas. Il vous la rendra là-haut. Il vous la rendra là-haut. Amassez des trésors dans les cieux. Amassez des trésors dans les cieux. Là où ils ne périssent pas, comme Michael disait, moi je veux de l'argent, mais ça ne sert à rien ton argent. Comme disait aussi Yannick, mais à la fin mon travail, il en reste quoi? David arrive à la fin de son chant, alors que j'arrive aussi sur la fin de ce message. Et au verset 34 et 35, il dit, « Célébrez l'Éternel car il est bon. » Oui, sa bonté dure éternellement. Dites, sauve-nous, toi le Dieu qui est notre sauveur. Sauve-nous, toi qui es le Dieu notre sauveur. Il dit tout. Tu es bon, ta bonté dure éternellement. Toi, sauve-nous, parce que toi seul peux nous sauver. Et en toi, jour après jour, on trouve le salut. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, n'adorons pas les dieux qui ne parlent pas. Ni ne répondent, mais adorons et craignons le seul vrai Dieu, Jésus, qui a le pouvoir sur la vie et la mort. Le seul qui a vaincu la mort, Jésus. Il est mort pour humilier Satan et les ressusciter 3 jours après, pour exposer son règne et donner son règne éternel. Aucun autre n'a fait ça. Et il est venu nous donner ça gratuitement. Hein? Amen, on peut applaudir, Aiguille. Merci. Je vois les jeunes qui sont là, je vois les jeunes du caté qui sont là-haut. Vous savez, je m'adresse à vous maintenant. Je vous aime. Mon amour par rapport au Seigneur, je ne pourrais jamais égaler. Mais je peux vous dire que le Seigneur, il a des choses tellement ouf pour vous. Mais laissez-le être le premier dans votre vie. Challengez-le à transformer votre vie et à faire de vous des transformateurs pour la vie des autres. Parce qu'il le fera. Soyez-en sûrs. Priez pour les ados, s'il vous plaît. Priez pour ces jeunes. Ils sont dans un combat qui est tel. Les tentations, l'ennemi s'acharne parce qu'il sait que Jésus revient bientôt. Priez pour les jeunes, s'il vous plaît. Qu'ils vivent quelque chose, qu'ils expérimentent la révélation de Jésus-Christ. Le jour où vous accueillez Jésus dans votre cœur, tout comme David a accueilli Dieu dans sa ville et au centre de son cœur, vous découvrirez cette liberté, la joie du salut. La joie du salut. Et vous n'aurez plus aucun autre désir que de rester proche de Dieu, de le connaître, de passer du temps avec lui, de le laisser vous imprégner de son amour, de venir panser les blessures. On a tous des blessures. Ô combien ! Le monde est déchu, mais Dieu vient restaurer, Dieu vient sauver le pécheur. J'aimerais vous lire un témoignage pour terminer ce message. Un témoignage d'un jeune. Un jeune Algérien du nom d'Amir. C'est un faux nom pour sa couverture. C'était un témoignage trouvé sur le site de Porte Ouverte. Comme de nombreux jeunes de sa génération, Amir, 23 ans, rêvait d'émigrer vers l'Europe à la recherche d'une vie meilleure. Un jour, il tombe sur l'article d'un journal arabophone indiquant que les services de sécurité enquêtent sur un groupe de chrétiens évangéliques qui propose à des Algériens musulmans de l'argent et des visas pour voyager en Europe à condition qu'ils se convertissent à Christ. Pour Amir, c'est là une opportunité à saisir pour réaliser son rêve. J'étais ambitieux et je voulais partir dans un pays d'Europe. Je pensais que j'y mènerais la belle vie, loin de la pauvreté et des problèmes. Alors après avoir lu cette information dans le journal, j'ai sauté sur l'occasion, dit-il. Comme Amir ne connaissait aucune église ni aucun chrétien algérien, il a cherché sur Internet des renseignements sur la communauté chrétienne, ainsi que d'éventuels contacts. Je suis tombé sur le site de la chaîne chrétienne El Hayat. J'ai envoyé un message et j'ai laissé mes coordonnées. En même temps, j'ai lu sur ce site plusieurs articles à propos de la foi chrétienne. Quelques jours plus tard, un homme m'a appelé pour me proposer un rendez-vous. Je l'ai rencontré et nous avons discuté longuement. Il a répondu à certaines de mes questions sur le christianisme, Jésus et l'islam. Et il m'a invité à assister à la fête de Noël qui devait se tenir dans les locaux d'une église à Oran. J'ai accepté l'invitation sans tarder, j'allais enfin pouvoir réclamer mon visa. Attention. Lorsque je me suis rendu à l'église avec ce chrétien, le jour de Noël, j'ai été surpris par le grand nombre de chrétiens venus assister à la fête. C'était la première fois que je voyais cela. Après le culte, j'ai fait connaissance avec quelques chrétiens et les serviteurs dans cette église. Personne ne m'a parlé de visa, ni m'a proposé de l'argent. Moi non plus, je n'ai rien réclamé. Au contraire, j'ai continué à fréquenter cette église et à lire l'Évangile. J'ai commencé à penser réellement à Dieu. J'ai trouvé des réponses à plusieurs questions concernant Dieu. Cela a changé ma vision des choses. Autrefois, Dieu m'inspirait la peur. C'est ce que je ressentais lorsque je lisais le Coran. J'observais le ramadan et la prière musulmane, mais cela ne me donnait pas la paix. En lisant l'Évangile, je découvrais un Dieu d'amour. J'ai fini par accepter Christ dans ma vie. J'ai expérimenté une paix réelle et mon âme était rassasiée suite à cette rencontre avec Jésus-Christ. Ces mots à lui. Quelque temps après ma conversion, j'ai avoué au pasteur que c'était pour obtenir un visa vers l'Europe que j'étais venu à l'église pour la première fois. Il m'a expliqué que l'on ne peut pas acheter notre salut et la relation avec Dieu par de l'argent et un visa. Jésus-Christ a tout payé pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Et Amir rajoute, pour terminer ce témoignage, « Tout ce qu'ont rapporté les journaux est faux. Moi qui cherchais un visa pour l'Europe, Dieu m'en a donné un pour le ciel. » Aujourd'hui, Amir ne cherche plus à quitter l'Algérie. Mais elle veut y rester pour témoigner à ses compatriotes ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. C'est un témoignage véridique, vous pouvez aller sur le site internet de Porte Ouverte. Aujourd'hui, si vous deviez vous rappeler d'une chose de votre Dieu, rappelez-vous de son Fils Jésus, car c'est lui qui a tout accompli à la croix, par amour pour nous, afin que nous puissions vivre librement et pour l'éternité. Dieu règne pour l'éternité.